Première partie. Comprendre ses angoisses. Chapitre 1. Vous n'êtes pas seul. Le vrai bonheur est dans le calme de l'esprit et du cœur. Charles Nodier. La croyance que rien ne change provient soit d'une mauvaise vue, soit d'une mauvaise foi. La première se corrige, la seconde se combat. Friedrich Nietzsche. L'homme s'avance vers son pupitre où il va prononcer un discours d'une importance capitale. Il se redresse, respire calmement. Sa famille et ses amis ont répondu présent. Sa femme l'encourage. Tandis que le décompte s'amorce de 5 à 1, le micro s'ouvre. Les premières phrases sont hésitantes. Vont s'en suivre 6 minutes qui peuvent sembler infimes pour le commun des mortels, mais pas pour George VI, roi d'Angleterre, qui souffre de bégaiement, et qui, à l'occasion de ce discours, demandait au peuple britannique de supporter l'effort de guerre contre l'Allemagne. Un film magistral a été tiré de cette formidable histoire. C'est une belle leçon pour tous ceux qui souffrent d'angoisse. George VI n'avait pas vraiment le choix, n'est-ce pas? Est-ce à dire que, lorsque nous sommes obligés de nous soumettre à un événement très angoissant, l'esprit trouve les ressources pour nous aider à dépasser notre état d'anxiété? Réponse un peu plus tard dans ce livre. Quelle angoisse! Les crises surviennent dans des états qui diffèrent beaucoup d'une personne à l'autre. Que la situation soit naturellement stressante comme lors d'une réunion importante ou d'un événement dramatique, décès, séparation, et qu'elle se répète, ou qu'elle soit anormalement anxiogène, mon parachute ne s'ouvre pas, n'importe qui peut être sujet à des attaques. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas irrémédiable. Vous allez vous en sortir. Contrairement au titre de ce chapitre, dans tous les cas, vous vous sentez bien seul. Patience. Patience. Voici un autre exemple qui va certainement vous parler. En promenade, sur une place du centre-ville, debout au soleil, vous passez du bon temps avec vos amis. Jusque-là, tout va bien. Vous êtes habitué à ce genre de réunion. Vous connaissez bien les personnes avec qui vous parlez. Les lieux vous sont familiers. Ce sont de ces moments que vous appréciez le plus. Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce que, brusquement, vous vous sentez devenir faible, comme si vous étiez saoul, que vous titubiez et que vous alliez tomber. Pendant quelques secondes, vous essayez de rattraper le coup sans que personne ne s'aperçoive de votre mal-être. Vous faites bonne figure en souriant, et pourtant vous n'êtes vraiment pas bien. Vos genoux vont-ils vous lâcher? Allez-vous tomber raide par terre sur cette place que vous connaissez depuis des années, devant vos amis et tous ces passants? Vous vous asseyez sur le premier banc libre en prétextant l'envie d'être plus à l'aise pour discuter. Personne n'est dupe. La couleur et l'humeur qui se dégagent de votre visage ont changé. Blanc de peur ou rouge, échauffé par l'émotion, votre corps réagit avec violence à votre première crise d'angoisse. Vos amis s'inquiètent. Vous dédramatisez. Vous les rassurez. Vous avez eu un coup de pompe pour convaincre vos amis de cette envie soudaine et inhabituelle de vous asseoir. Ils font de même à côté de vous. Pendant que vous discutez comme si de rien n'était, pour vous rassurer, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander ce qu'il s'est passé. Une baisse de tension? Du sommeil à récupérer? Un malaise cardiaque? La liste des raisons est infinie, ce qui ne fait que renforcer votre mal-être. Vous prenez de grandes respirations. Vous fumez une cigarette, avalez un aliment sucré ou mâchez un chewing-gum. Une fois vos esprits retrouvés, vous vous levez pour donner le signal à vos amis qui n'ont rien remarqué. Le regard dirigé vers le sol, la tête encore chancelante, vous savez qu'il s'est produit en vous un événement anormal. Mais il n'y a rien de pire que de se faire des films et de ne rien savoir. Vous n'avez qu'une envie. Rentrez chez vous et consultez un médecin au plus vite. En attendant, vous vous promettez de ne plus jamais mettre les pieds sur cette maudite place qui vous a fait si peur. Et par voie de conséquence, vous éviterez soigneusement de traverser toutes les places qui dorénavant croiseront votre chemin. Il faut à présent se relever et marcher jusqu'à votre voiture ou le moyen de transport le plus proche. Dans le pire des cas, vous en êtes incapable et demandez ouvertement de l'aide à vos amis pour qu'ils vous raccompagnent chez vous ou aux urgences de l'hôpital. À moins que vous n'appeliez les pompiers. Quelle panique! Voyons ensemble un dernier cas pour illustrer ce chapitre. Madame Martin vient d'être promue responsable de rayon dans une grande enseigne d'hypermarché et doit présenter à sa nouvelle équipe, dans 2 semaines, les projets de l'entreprise et les objectifs de chiffre d'affaires de son département. Elle sait aussi qu'elle devra recevoir chacun des membres de son équipe afin de les évaluer et en référer au directeur du magasin et au directeur régional. Autant vous dire que Madame Martin stresse, ce qu'on peut facilement comprendre. Ce qui est moins normal, c'est qu'elle va se créer des scénarios tous plus négatifs les uns que les autres. On imagine sans peine son cerveau lui dire à longueur de temps « Je vais être nulle, jamais je n'y arriverai, que va penser l'équipe, etc. » La pression économique d'aujourd'hui et les risques de chômage ne font rien pour arranger son état. Elle s'imagine soit être rétrogradée et faire partie de l'équipe qu'elle était censée diriger, être la risée de tout le magasin, ou pire, être licenciée. Son état naturel de stress va se dégrader en un état anxiogène de plus en plus élevé. Un jour, Madame Martin, sous la pression de son mental, s'effondre émotionnellement sur son lieu de travail. Prise de panique, elle sort du magasin et n'a plus envie d'y retourner. Ces personnes viennent de vivre leur première crise d'angoisse, suivie d'un état de panique. J'ai vécu les 2 premières situations il y a un peu plus de 20 ans. Je sais donc parfaitement ce que vous avez vécu et l'enfer que vous traversez. Croyez-moi, si vous êtes de ceux qui ont acheté ce livre pour aider un proche, on imagine mal les terribles sensations qu'engendre une crise d'angoisse suivie d'une panique. Êtes-vous un angoissé qui s'ignore? Stress, anxiété et angoisse, quelle différence? Afin de mieux cibler vos efforts, je vais dans un premier temps vous expliquer la différence entre ces 3 termes. Commençons par définir ces 3 mots, les plus importants qui vous concernent directement. Le dictionnaire Larousse va nous y aider. Stress. État réactionnel de l'organisme soumis à une agression brusque. Sur cette définition, j'émettrai une petite réserve. En effet, faut-il être réellement soumis à une agression brusque pour être stressé? Considérons un étudiant la veille d'un examen. On ne peut pas dire qu'il s'agit d'un événement brusque. À moins qu'il ait hiberné de septembre à juin, en toute logique, cela doit faire des mois qu'il est au courant de ses dates d'examen. Et pourtant, rien de très exceptionnel à ce qu'il soit stressé. De plus, dans ce même exemple, peut-on parler d'agression? Cette vision très pessimiste du stress est à nuancer. Wikipédia nous dit ceci. Le stress est en biologie l'ensemble des réponses d'un organisme soumis à des pressions ou contraintes de la part de son environnement. Ces réponses dépendent toujours de la perception qu'a l'individu des pressions qu'il ressent. Bien vu. On parle de contraintes, mais aussi de perception. Dans notre exemple précédent, l'étudiant est bien contraint de se présenter à son examen. Par ailleurs, certains étudiants n'auront aucune pression, qu'ils aient étudié ou non, tandis que d'autres, excellents élèves, seront très stressés. Anxiété. Inquiétude pénible, tension nerveuse causée par l'incertitude, l'attente, angoisse. Trouble émotionnel se traduisant par un sentiment indéfinissable d'insécurité. Angoisse. Grande inquiétude, anxiété profonde, née du sentiment d'une menace imminente mais vague. Sentiment pénible d'alerte psychique et de mobilisation somatique devant une menace ou un danger indéterminé et se manifestant par des symptômes neurovégétatifs caractéristiques. Spasme, sudation, dyspnée, accélération du rythme cardiaque, vertige, etc. Oh là là! À ce stade, les choses se corsent, n'est-ce pas? Nous avons démarré doucement avec le stress, une réponse de notre corps, puis notre état émotionnel a gravi quelques échelons avec l'anxiété, qui prend maintenant une tournure bien plus inquiétante et radicale sur notre santé physique et mentale, avec l'angoisse qui s'est installée. Parmi les symptômes décrits, je suis certain qu'il vous rappelle votre propre état en cas de crise d'angoisse. Faisons le point. À quel stade en êtes-vous? Les symptômes de l'angoisse mentionnés dans la définition ci-dessus sont proches de ceux de la crise du même nom. Quel que soit le stade de votre état émotionnel, réponse au stress, anxiété ou angoisse, n'attendez pas le dernier moment pour prendre soin de vous. Il n'est jamais trop tard pour gérer des crises d'angoisse. Le stress est une réponse qui peut être extrêmement positive et engendrer une belle dynamique et renforcer la motivation. Si je prends par exemple l'écriture de ce livre, le stress de ne pas le terminer à temps me booste. C'est un moteur qui me pousse à aller de l'avant. L'important est donc de ne pas dépasser ce stade. Mieux vaut en toute logique écoper avant que le bateau ne chavire. À retenir. Mieux vaut prévenir que guérir. Au moindre signe avant-coureur d'un stress trop important, je vous conseille d'appliquer les exercices décrits dans les pages suivantes de manière occasionnelle, mais régulièrement, afin d'optimiser votre résistance à une crise d'angoisse et ainsi la repousser très rapidement. Je ne connais aucun athlète ni musicien qui ne se soit entraîné durant des centaines d'heures, un minimum, avant d'atteindre les sommets. Vous forgerez votre mental afin qu'il résiste à la tentation de s'emballer. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Vous allez apprendre à combattre efficacement et tout en douceur vos crises d'angoisse et de panique. Prêt ? La bonne nouvelle, pour en revenir aux exemples cités, c'est que je me suis débarrassé tout seul et très rapidement de ces angoisses et de ces états de panique en appliquant des techniques qui ont fait leurs preuves sur des personnes qui souffraient de crises depuis plus de 20 ans et que j'ai pu expérimenter lorsqu'elles sont venues chercher mon aide. Pour cela, je vais vous demander deux choses. 1. Être combatif. 2. Appliquer à la lettre le plan que je vais vous donner. Elles n'ont l'air de rien, mais j'aimerais que vous preniez 30 secondes pour les relire une dizaine de fois. C'est fait ? Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Prenez un stylo et recopiez ces deux lignes. Je suis hyper combatif, hyper combative. J'applique à la lettre le plan d'attaque anti-crise d'angoisse. À vous. Je vous promets dès maintenant une éclatante réussite et une vie nouvelle. Car vous ne le savez certainement pas encore, mais les crises d'angoisse disparaissent aussi soudainement qu'elles sont apparues. Un beau jour, vous vous lèverez, vous vous promènerez, vous conduirez votre voiture, et les crises auront disparu. Prêt ? Alors c'est parti pour une grande bataille, dont vous sortirez assurément vainqueur.